Bonjour, autre radio, autre culture, émission également diffusée sur audiopeople.fr. Nous recevons aujourd'hui une ingénieure du son qui s'appelle Leslie Carvela-Marty. Bonjour Leslie.
Bonjour.
Alors moi je te connais depuis quelques années. Parce que tu viens de temps en temps faire ton petit tour au studio pour savoir qu'est-ce qui a changé.
Voilà, je vais prendre des nouvelles. Des nouvelles de la famille.
Alors, qu'est-ce qui t'a amené à devenir ingénieur du son ?
Ouais, écoutez, j'ai commencé déjà par faire de la musique, du piano. Donc, j'ai commencé, j'avais 6 ans. J'ai enchaîné avec la guitare. Donc, j'ai continué un peu les deux instruments tout en étant dans des rêves un peu musicaux. J'ai toujours voulu faire ça, rester dans un contexte musical en tout cas. Comme je viens d'un petit village où, en général, la musique, c'est pas forcément un métier, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait être à peu près stable comme métier autour de la musique, et je me suis dit, tiens, ingénieur du son, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal parce qu'on n'est pas forcément sur le devant de la scène, on est toujours au contact plus ou moins avec des musiciens ou des artistes, donc ça me plaisait bien. Donc vers l'âge de 12-13 ans, je me suis dit, bon, bah, à 18 ans, je vais faire ça, je vais faire ingénieur du son. Voilà, je me suis renseignée sur ce qu'il fallait faire, et puis j'ai trouvé l'école SAE, et donc voilà, je suis montée à Paris à 18 ans après avoir eu mon bac en poche.
Est-ce que l'école SAE t'a satisfaite dans ce que tu voulais faire, si je veux dire, au niveau du savoir ?
Mais en fait, moi, ça m'a vraiment permis de découvrir aussi le métier, parce que j'en avais une idée, mais j'étais pas vraiment sûre de ce que c'était. Parce que, comme je vous le dis, moi, vers chez moi, il n'y avait pas vraiment beaucoup de concerts, il n'y avait pas de studio d'enregistrement, il y avait un petit théâtre sympa, mais bon, il n'est pas forcément sonorisé à chaque fois. Donc, moi, c'était vraiment... Je montais à Paris, je découvrais le métier, et puis je voyais aussi, puisque c'est une école privée, donc que mes parents avaient pu me financer. Donc c'était vraiment découvrir le métier, voir si c'était vraiment l'idée que j'en avais depuis le départ. Et en effet, je me suis pas trompée, c'était vraiment ce que j'attendais. Et la SAE m'a permis de découvrir donc plus en profondeur le métier et d'apprendre vraiment quelque chose. Donc j'ai commencé en septembre 97, donc j'ai commencé l'école avec la formation théorique. Et pratique, et parallèlement à ça, j'ai toujours fait des stages dans des studios d'enregistrement, plus dans les salles de concert. Donc finalement, je me suis aperçue au bout d'un moment que je dormais 3-4 heures par nuit, et que le reste du temps, j'étais tout le temps dans des studios, dans des salles de concert, à droite à gauche, et à l'école, en train de potasser mes bouquins. Voilà, donc c'est finalement la SAE, moi, ça m'a servi vraiment à... par rapport à tout ce que j'ai vu sur le tas, vraiment à comprendre vraiment ce qui se passait dans les studios et les salles de concert, par la théorie, à goûter avec la SAE. Donc ouais, j'étais assez satisfaite de mon séjour là-bas.
En fait, on s'aperçoit en recevant divers ingénieurs du son que la SAE a l'air de marcher que si l'étudiant est passionné et cherche en dehors de la SAE à avoir des stages, à découvrir le son dans d'autres studios ou dans d'autres cellules, je veux dire, de travail.
Ah oui, totalement, parce que même la SAE nous force pas à faire de stage. On n'a pas de stage obligatoire dans l'année à faire par rapport à la SAE. Donc la SAE, il nous amène du matériel, il nous amène des cours théoriques. Après, si on veut bosser, on bosse. Et à ce moment-là, on a une certaine curiosité et on va essayer d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe, parce que c'est clair que chaque studio, chaque ingénieur du son a sa façon de travailler. Il y a une certaine mentalité à la SAE, on nous apprend certaines choses, une vision des choses, on va dire, de l'ingénieur du son. J'ai découvert des choses vraiment très très différentes, voire même opposées dans d'autres studios qui me convenaient peut-être plus aussi. Après, c'est vraiment, on nous apporte la théorie, moi je suis vraiment partie de ça en fait. Je prends la théorie et je regarde comment ça se passe à droite à gauche, et après j'applique tout ça et je fais mon petit mélange à moi.
À cette époque, qu'est-ce qui t'intéressait le plus, de devenir ingénieur du son dans le live ou alors dans les studios ?
Bah, les deux, en fait. Les deux, mon capitaine. C'était vraiment... je voulais voir déjà le studio. Mais c'est vrai que dans l'idéal, je voulais vraiment toucher aux deux. J'ai découvert les deux au fur et à mesure. Et ensuite, je me suis aperçue que pour une femme, finalement, je trouvais que c'était quand même plus pratique le studio. Tout simplement parce qu'il y avait des grosses caisses à porter, du matériel vraiment très lourd dans le live. Des conditions que je trouvais vraiment beaucoup plus contraignantes. Qui me plaisait moins, en fait. Qui me plaisait moins que le studio où on connaît vraiment son matériel, où on arrive vraiment avec ça. On peut vraiment appliquer sa touche, en fait. Et moi, c'était vraiment ce côté-là qui m'intéressait. C'était vraiment de pouvoir amener une touche artistique aussi à l'enregistrement et pas faire un truc très technique pour que ça marche. Et puis le reste, bon, ça passe un peu à côté. Donc moi, finalement, ouais, j'ai préféré me tourner vers le studio au bout d'un moment. Et voilà.
Alors, tu as travaillé dans de nombreux studios, tu as fait des stages dans de nombreux studios. Quels sont les studios qui t'ont marqué plus particulièrement ?
Alors, les studios qui m'ont marqué plus particulièrement, c'est le studio Labrou, où j'ai rencontré mon mentor, mon mentor technique. Non, vraiment, vraiment, j'ai vraiment adoré ce studio. J'ai adoré passer du temps ici, à venir découvrir du matériel, à comprendre comment tout fonctionne, je veux dire. Et aussi, le studio Orchidée, c'était le studio de Jean-Pierre Dorsay. Donc c'est un studio d'arrangement en fait. Donc Jean-Pierre Dorsay c'était un grand chef d'orchestre. Il avait pas mal tourné dans les années 70 avec Beko, avec Paul Naref. Apparemment il avait fait vraiment vraiment beaucoup de choses. Nicole Croisi. Et donc je l'avais appelé pour un stage. Et il m'a dit bon ben c'est dommage, je cherche pas d'ingénieur du son, mais si vous aviez été musicienne ça m'aurait intéressé. Donc je lui dis, bah, si, j'ai fait de la musique, je continue toujours. Il me dit, ah, bah, si vous voulez passer. Bah, j'ai appris avec lui finalement à faire des arrangements. Donc chose qui m'a vraiment énormément intéressée, et c'est ce qui fait vraiment que je continue encore aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir associer le côté technique et artistique, mais au sens vraiment... vraiment pur du terme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des chanteurs qui arrivaient avec leur mélodie, plus ou moins connus d'ailleurs. Je crois qu'à l'époque, il y avait Jean Vallée qui venait, donc c'était des chanteurs qui avaient bien marché pendant les années 70 et qui continuaient un petit peu à rouler leur bosse dans des galas. Donc c'était très sympa. Et donc, ben, il m'apprenait à faire de la programmation, à jouer on a repris ensemble le piano, on a repris plein de choses. Et donc, ben, ça m'a vraiment éclairé sur l'arrangement. Et ça, c'est vraiment devenu ma passion après, donc j'ai continué. J'ai continué à faire des arrangements pour après ben, monter mon groupe et puis continuer à partir là-dessus.
Et on va parler de ton groupe tout à l'heure, mais parce que c'est quand même une grosse part de ta vie.
Oui, oui.
Et mais on va continuer dans la vie des studios.
Oui, pas de problème.
En tant que stagiaire, parce qu'on parle beaucoup des stages et des stagiaires, et il y a beaucoup de jeunes ingénieurs du son, enfin, qui vont devenir ingénieurs du son, qui critiquent. Je sais qu'il y a eu des critiques sur des sites internet d'ingénieurs du son qui étaient plutôt vus comme des femmes de ménage et des bonnes que comme des techniciens en tant que tels et des ingénieurs. Et toi, est-ce que tu as eu cette expérience-là?
Ah, oui, oui, oui. oui. D'autant plus en étant une fille. Oui, il y a des studios dont je tairai le nom, mais où pour avoir la possibilité de toucher à la console, il faut d'abord faire le ménage. Donc ranger les bouteilles renversées de l'enregistrement de la veille au soir, passer l'aspirateur dans la console chez certains, parce qu'ils fumaient tous au-dessus et qu'il y avait 3 cm de cendre de cigarette. Tout ça pour pouvoir après avoir accès à la console et faire une session d'enregistrement. D'ailleurs, finalement, ma première séance, je l'ai eue comme ça, parce que le patron était tellement bourré, on va dire, qu'il a dû partir et puis il m'a dit bon bah écoute, débrouille-toi, alors que moi j'étais en train de ranger ses bandes qu'il avait laissées en plein milieu. Donc finalement bah, j'ai pu faire une séance comme ça. Mais c'est vrai que la place du stagiaire, c'est vraiment... En fait, le problème, c'est que les studios ont de moins en moins d'argent et profitent de plus en plus des jeunes qui sont passionnés, qui arrivent. Je veux dire, c'est vrai que la musique, c'est un monde où tout le monde est... On ne peut pas faire les choses à moitié. C'est soit on est à fond et on fait les choses de A à Z, vraiment, on est passionné, on est prêt à tout. Et le problème, quand on a 18 ans ou 20 ans et qu'on a envie de faire ingénieur du son, c'est que tous les studios en profitent. Et franchement, il n'y en a pas énormément qui prennent le temps d'expliquer les choses. Voilà, tiens, où tu peux toucher à ça. C'est à chaque fois, on est quand même les petits larbins. Et j'ai eu de la chance de travailler notamment donc avec Philippe ici, ou avec le studio Basement par exemple, où eux m'ont vraiment laissé les commandes en me disant, en m'apprenant à chaque fois ce qu'il fallait faire. Et puis ça me permettait de vraiment de toucher au matériel sans forcément avoir à passer le balai ou aller faire le café.
Ouais, moi j'ai le souvenir comme ça de statuts de stagiaires dans un studio
ouais.
Qu'ils ont passé sur internet où il fallait s'occuper. Alors ils avaient, j'ai cru quand j'ai lu le dossier que c'était un dossier pour des préparations, pour des gens qui rentraient dans un service de maintenance, enfin de nettoyage dans les immeubles, parce que c'était du style il faut le matin que vous changiez le papier WC, voilà. Que vous changiez l'eau des fleurs, que vous laviez la vaisselle, que vous passiez. Alors ils expliquaient la manière de passer les chiffons et différents chiffons sur les meubles, de passer l'aspirateur sur tel type de tapis. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire.
Ah oui, on a statut de femme de ménage hein, au départ.
Et alors on passe sur une trentaine comme ça de règlements, de règles, et on n'a qu'à la fin où, lorsqu'un artiste arrive, vous êtes prié de vous mettre dans un coin et de ne pas dire un mot,
voilà.
De ne jamais intervenir dans une discussion sur le son, et surtout de vous taire. Vous avez seulement le droit de prendre des notes. Moi, j'avais trouvé ça...
Ah oui, c'est affolant. Moi, j'étais tombée dans un studio aussi. C'était à Maison Alfort ou Alfortville, je ne me rappelle plus. Mais c'était vraiment une horreur. Quoi. Je suis restée un mois et puis j'ai vraiment laissé tomber. Un studio avec du matériel correct, sans non plus être vraiment extraordinaire. Où il y avait un discours qui était plus que limite, déjà, à la base. Et puis, où un jour, je me suis fait engueuler parce que la patronne est allée aux toilettes et a vu qu'il n'y avait plus de papier. Elle me dit, mais c'est quand même ton rôle. Ah! Bon, je savais pas, excusez-moi, je suis désolée, je savais pas qu'il fallait que je fasse ça. Donc là, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Mais sans jamais avoir pu toucher à la console pendant un mois. Donc jusqu'au jour où elle m'a appelée en panique parce que son ingé son l'avait planté. Lesti, est-ce que tu pourrais venir ? Non, je peux pas, non, je crois pas. Mais c'est très impressionnant. On a vraiment, y a vraiment des studios qui exagèrent. Heureusement, il y en a pas beaucoup. Il y a quelques studios qui vraiment donnent leur chance et on peut quand même toucher un peu du doigt sa passion. Mais c'est vrai que les trois quarts du temps, les gens en profitent. Et même chez des grosses prods, il y a quand même pas mal de trucs comme ça. Moi, j'ai travaillé dans le théâtre à un moment, c'était à Bobino, et on m'avait dit, écoute, on a besoin d'un assistant. C'était vraiment vendu comme ça. Nous, tu sais, on ne fait pas travailler les gens à l'œil. Donc, en plus, tu vas pouvoir toucher quelque chose. Moi, j'étais encore à l'école. J'étais toute contente. Je me suis dit, bon, bah, super, je vais pouvoir venir. En plus, ça va me permettre au moins d'avoir un petit défraiement. Je suis arrivée. Puis, au bout d'un mois, je ne voyais rien venir. Alors que je m'occupais vraiment de pas mal de trucs voilà, où l'ingé son ne pouvait pas le faire. Quoi. Donc, j'étais vraiment son assistante. Je n'étais pas une stagiaire qui apprend le métier. Donc moi je m'occupais des bruitages, je m'occupais de faire les balances quand l'ingé son pouvait pas être là à l'heure, je m'occupais de pas mal de trucs. Et puis bon, au bout d'un moment, je vois que pas de contrat, rien. Donc je vais voir la directrice et puis je lui dis, bah c'est bizarre. Elle me dit, ah bon, mais t'es stagiaire, hein, de toute façon, on est très content de toi, mais tu crois pas que tu vas être payé. Donc moi, en plus, par acquis de conscience, je me suis dit, bon, il reste encore 2 mois, je vais pas les planter comme ça parce qu'ils étaient vraiment ric-rac et qu'on n'arrivait pas sinon à faire tourner le truc. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais rester encore 2 mois parce qu'au moins j'apprends. Le théâtre, je connaissais pas, donc j'ai pu découvrir ça. Mais c'est hallucinant. Donc moi, je suis restée finalement comme ça. Heureusement que finalement, l'ingé son, au fur et à mesure, me laissait de plus en plus de place et que j'ai pu vraiment faire les...
Alors, je vais être un peu politique, là.
Oui.
Moi, je suis assez surprise de voir ce genre d'attitude pour des gens qui se veulent quand même très à gauche.
Oui.
En général, on a... oui, nous sommes tous frères, nous sommes tous bons, nous sommes tous gentils. Et finalement, de faire des coups pareils à des jeunes oui. Ingénieurs du son qui débarquent. En fait, de les prendre comme des esclaves.
Ah oui, non, mais c'est ouais, moi ce discours-là, j'y crois plus du tout. C'est vraiment, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas eu un studio où on travaille, où on a au moins un défraiement. C'est vraiment, même les derniers studios où j'étais, c'était au départ, en fait, avant de m'embaucher en tant qu'ingé son, ils voulaient prendre que des stagiaires pour tout. Parce que ça revient pas cher. Alors que ce sont des gens qui s'emplâtrent peut-être 30 000 euros par mois. Je veux dire, il y a un minimum. Et tout le monde, voilà, après se dit de gauche.
C'est assez curieux comme mentalité. C'est assez curieux.
Oui, oui.
Alors, ce qui m'a plu chez toi, c'est que tu as eu une expérience sur tout un type de prise de son que peu d'ingénieurs ont finalement, puisque tu as travaillé autant sur le live, autant dans des studios, mais tu as travaillé également sur des studios en voix off. Alors tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors en fait, c'est un studio qui s'appelle Coaching Voix Off, qui est à Neuilly. Pour l'instant, car je crois qu'ils vont déménager. Donc, ils cherchaient un ingénieur du son pour pouvoir faire les prises de son pendant des cours, parce que c'est un centre de formation de voix off, et c'est aussi un studio de production. Donc, j'ai découvert un petit peu la voix off à ce moment-là, parce que pour moi, la voix off, c'était des comédiens qui viennent en plus cachetonner un petit peu. Et puis finalement, pas du tout. C'est un vrai métier avec des vraies règles techniques. Il y a vraiment un cahier des charges assez particulier et c'était très intéressant parce que ça permettait aussi de faire toute la partie habillage sonore, donc par rapport à tel ou tel texte, par rapport à la voix du comédien, par rapport au contenu. Donc j'ai pu aussi, ça m'a permis aussi de diriger des castings par exemple, de diriger des séances d'enregistrement pour il y a eu TF1, il y avait du M6, il y avait du MTV. Donc c'est vraiment un autre milieu par contre. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la mentalité qu'on peut retrouver dans un studio d'enregistrement musicaux par exemple. Mais c'est vrai que c'est encore autre chose. C'était vraiment intéressant parce que j'ai découvert plein de nouveautés. Mais c'est vraiment, ouais, c'est encore un autre métier, je pense. C'est ce qui m'a plu, moi aussi, au niveau du métier d'ingénieur du son, c'est que c'est vraiment beaucoup de choses très, très différentes. Il peut y avoir le cinéma, bon, ça, j'ai pas touché pour l'instant, mais donc, ne serait-ce que voilà, la sonorisation, l'enregistrement, le mixage, le mastering, l'enregistrement de voix off. Là, ce que je fais actuellement aussi à l'IAS, c'est vraiment des choses très très différentes, mais ça regroupe, c'est quand même appelé ingénieur du son, c'est le même métier. Mais c'est ce qui fait l'intérêt d'ailleurs, je trouve, de ce métier-là.
Quelles sont les obligations, enfin je veux dire, en tant qu'ingénieur du son, les choses que tu apprends dans ce type de studio par rapport à un studio comme celui-ci ? Des choses de très particuliers ?
C'est, on va dire que ça va être la relation peut-être plus avec le comédien et là aussi avec les élèves. Niveau technique, bon, il n'y avait pas énormément de choses à gérer, puisque bon, il y a un micro, bon, après, c'est pas très très compliqué, toutes ces choses-là. Simplement, ouais, c'est plus la relation avec l'acteur qui est différente qu'avec le musicien. C'est vraiment une autre approche. Là, on était vraiment dans un côté production, où en fait, finalement, les gens sont là pour un produit et non pas comme pour des musiciens, pour un bébé qui sont en train de façonner en fait. C'est-à-dire qu'au niveau musical, on va voir vraiment le musicien qui va y mettre ses tripes parce que c'est son enfant qu'il est en train de mettre au monde. Donc, il va vraiment, ça vient vraiment du fond du cœur. Au niveau de la voix off, c'est un produit. C'est un shampoing qu'on vend, hein, je veux dire, et la voix du comédien va s'adapter. Donc c'était vraiment toute une façon de travailler et toute une façon de voir l'enregistrement après qui est vraiment différente en fait. On travaille pas avec des artistes dans le sens créateur du terme. On travaille avec.
Ils sont quand même créateurs parce que de toute façon. Une série américaine qui marche en France, la série américaine qui marche, c'est la série où il y a les voix off qui sont, les voix de comédiens qui sont.
Ouais, mais c'est différent du doublage. Hein. C'est très différent du doublage. Là, par exemple, je me rappelle de comédiens voix off qui disaient, par exemple, ils vont faire des films. Des films institutionnels où ils vont devoir avoir une voix très, très posée, très explicative. Mais trois quarts du temps, ils ne comprennent rien à ce qu'ils racontent parce que c'est des trucs très techniques. Donc c'est vraiment, là c'est un travail de comédien. Après, il va y avoir le travail du pour les publicités, donc très vendeur. Alors on va avoir une voix posée, classe, pour un parfum. On va vraiment, donc c'est ce jeu-là est super intéressant. Mais au niveau de la création, finalement, je me suis aperçue, moi j'ai travaillé 3 ans là-bas, je me suis aperçue que finalement, on redemande toujours les mêmes choses. Bon, ça après, c'est aussi tout le contexte actuel des médias et de la publicité qui veut ça. Mais par exemple, à une femme, on va lui demander toujours d'avoir une voix super sensuelle ou alors de faire la petite pouf qui est un peu bébête et qui va découvrir les choses. Et un homme d'avoir voilà, une voix très posée, très classe, ou alors une voix de Rambo pour faire toutes les pubs DVD. Finalement, on s'aperçoit qu'on retrouve toujours les mêmes critères. Donc oui, il y a une part de création, c'est clair, parce qu'il faut arriver quand même à gérer ça, mais finalement, ensuite, on se retrouve toujours sur les mêmes personnages.
Est-ce que les comédiens qui viennent dans ce genre de studio s'intéressent au travail de l'ingénieur ?
Certains. Ceux qui marchent, oui.
Ils n'ont pas des exigences, par exemple ?
Non. Ils ont des exigences par rapport à ce qu'ils entendent dans le casque, par rapport à ce qu'ils entendent après, ils s'en foutent. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir une énorme voix dans le casque, en général, très, très chaleureuse, très, très sensuelle, toujours. Hein, ça, il faut qu'on y ait droit à chaque fois. Donc, il suffit de mettre un casque où il y a un peu plus de basse que sur un autre qui serait un peu plus plat. Et là, ça va, ils sont contents. L'ego est flatté, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, après, s'ils vont écouter sur des petites enceintes, on dira, c'est bizarre. Hein. Non, non, mais c'est bon, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est vraiment, ouais, faut bon, il y a toujours cette histoire-là de devoir flatter un peu l'ego. Mais bon, ça, après, à partir du moment où il est à l'aise et où il fait bien son boulot, on peut lui passer ça. Mais je me rappelle avoir travaillé avec des voix off, et mon patron justement qui était voix off, où il avait toujours l'habitude d'écouter très très fort, très très compressé, et avec énormément de graves. Et un jour il me dit, ouais, ça serait bien qu'on change les casques, parce que... Et je me suis dit, tiens, ben, on va prendre un casque assez plat, erreur, on va prendre un casque assez plat de manière à vraiment entendre tout ce qui se passe, et avoir un truc un peu plus juste que ce qu'il avait jusqu'à présent. Et de suite, il a essayé 2 secondes, il m'a dit « Mais qu'est-ce que c'est ce son ? Je comprends pas et tout. » Je me suis dit « Bon, bah, c'est à peu près la voix que t'as normalement. » Donc bon, j'ai de suite changé, je suis passée à l'ancien, parce que là, ça servait plus à rien. Je crois qu'il était, vexé, limite vexé. Donc j'ai dit « Bon, bah, c'est rien, je vais les changer. Je vais les changer, il n'y a pas de souci, je te remets ton gros casque avec la grosse voix. Pas de problème. » Alors que le résultat était le même. Le résultat sur l'enregistrement était exactement le même. Mais bon,
c'est curieux, ça.
Ouais. Oui, y a des artistes qui ont des égos monstrueux.
Et tu as changé de direction, puisque après, tu as travaillé à l'IAS. C'est après ? C'est juste après ? Comment ça
juste après, oui. En fait, donc il y a eu pas mal de chamboulements dans le studio dans lequel j'étais. Donc j'ai pu travailler pendant un petit moment sur la direction artistique donc de comédien pour des publicités, des documentaires. Donc ça a duré quelques mois. Et puis ensuite, j'ai eu une autre proposition. Sachant que depuis, voilà, je me suis mariée depuis 2 ans, je suis mariée, j'ai des enfants, donc je voulais vraiment me poser un petit peu plus, avoir un peu plus de temps à accorder à ma famille. Donc j'ai cessé d'aller de studio en studio pour pouvoir me poser un petit peu plus, avoir des horaires corrects. Et puis j'ai trouvé un métier super intéressant finalement. Donc je suis toujours ingénieure du son, donc je travaille pour les archives sonores. Je travaille pour l'Institut des archives sonores, où en fait on est en gros des sous-traitants de l'INA, donc qui nous livre des 78 tours. Donc on travaille que sur du 78 tours, on fait pas de bande ou très très peu. C'est vraiment pour des commandes spéciales. Donc on travaille sur du 78 tours des années 49-50 actuellement. Donc on récupère les disques dans leur pochette d'origine, donc c'est vraiment des disques à gravure unique, donc c'est vraiment, il n'y a pas de copie, c'est vraiment les produits des années 50. Donc là on s'occupe en fait de faire la première restauration des 78 tours de 1949-1950, on est sur cette période là actuellement. Donc on récupère les disques donc dans leur pochette d'origine, on les nettoie au pinceau, et ensuite on les place donc sur une platine et on les numérise. On a dans les pochettes, on a les feuilles de montage d'origine, puisque en général les émissions peuvent contenir, je sais pas, de 2 à peut-être des fois 40 disques qui sont synchronisés à la base. Donc nous, on refait le montage tel qu'il était à l'époque. Donc bah, les années 50, il y a quand même tout un passé politique d'après-guerre qu'on peut sauvegarder. Donc c'est vraiment, on s'occupe du patrimoine historique, c'est ça qui est vraiment super intéressant. Alors ça peut avoir un côté un peu mécanique par moment, parce qu'on a un certain quota de disques à faire par jour, donc ça c'est vraiment le côté un peu lassant, mais en même temps, quand on écoute vraiment le contenu et quand on se rend compte de vraiment de ce qu'on fait, on n'est pas très très nombreux à faire ça en plus, donc c'est vraiment... Moi, c'est intéressant, vraiment.
Est-ce que vous procédez parfois à des ajustements dans le son, dans le transfert justement de ces discours ou de ces textes des années 50, de ces prises d'enregistrement?
On est très très limité par rapport à ça. Lina nous donne vraiment un cahier des charges très précis. On n'a pas beaucoup de marge. La seule chose qu'on doit faire, en fait, c'est vraiment rendre le discours le plus audible possible. Donc ça veut dire vraiment déjà au nettoyage. À la base, parce qu'il y a une espèce de poussière de cellulose qui est déposée et qui vraiment donne encore plus de bruit de fond, de clic que ce qu'il y a à l'origine. Donc vraiment, le nettoyage, c'est une partie très très importante. Ensuite, c'est vrai qu'à part le niveau d'entrée qu'on a réglé correctement, on n'a pas droit, nous, pour l'instant, de traiter. Ensuite, une fois que tous nos fichiers sont exportés, ils vont à l'INA et là, ils sont restaurés. Donc nous, on est vraiment à la prise de son, on essaye vraiment de faire le maximum de manière à ce qu'eux, après, puissent le traiter et le restaurer correctement, sachant qu'en général, ces disques-là, on les lit une fois et c'est terminé. Je veux dire, c'est des disques des années 50, donc ils vieillissent. Et souvent, après la première lecture, ils commencent à se marbrer. Donc, c'est-à-dire, il y a la couche de cellulose qui se fendit. Et puis, bon, après, ça saute et on ne peut plus rien faire.
Donc, c'est fini. Alors, lorsque vous avez fait le transfert, ces disques-là sont foutus, finalement?
Pas forcément. On essaye vraiment de faire au mieux, mais souvent, ça peut être le cas. Alors après, bon, espérons qu'ils vont trouver une machine de manière à pouvoir aussi numériser les disques abîmés. Je crois qu'ils sont en train de réfléchir là-dessus. Pour l'instant, il y a des disques, on les numérise même pas parce qu'on voit qu'ils sont abîmés et que de toute façon, si on les passe une fois, ça sera terminé. Donc souvent, on arrive quand même à les garder, à faire plusieurs lectures, mais le problème, c'est qu'une fois que ces disques sont humidifiés, il faut vraiment qu'ils sèchent correctement, de manière à vraiment à ce que la couche de cellulose ne parte pas.
Est-ce que vous avez ce type de machine? C'était Philippe, je crois, qui m'en avait parlé, où des disques cassés, on réunit le disque en puzzle, et je ne sais pas quel est le procédé, et on arrive à récupérer finalement toutes les données.
Alors nous, on l'a pas encore, cette machine. Je crois que Lina est en train de réfléchir là-dessus. En fait, ils sont en train de créer une machine comme ça. Alors je ne sais pas où ils en sont, ils ne nous ont pas donné beaucoup plus d'informations jusqu'à présent. Je sais qu'ils sont en train de faire quelques essais. Maintenant, on n'a pas vu vraiment les résultats, nous, encore. Mais en tout cas, c'est certain que le jour où cette machine sera prête, nous, on la prendra dans nos studios pour pouvoir vraiment travailler encore mieux.
Et ce principe de numérisation, il se fait sur quel support?
Alors, donc nous, on part d'une machine, donc c'est une EMT, une platine EMT 950. Et ensuite, bon, on travaille sur le Pro Tools et tous ces fichiers-là, après, sont transférés sur disque dur. Sur disque dur et sur CD pour avoir un master qui reste quand même sur un support solide.
D'accord, ce qui sous-entend aussi qu'il y aura des transferts qui peuvent se faire dans les années suivantes. Enfin,
tout à fait. Après, on va voir la durée de vie des CD.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Pour l'instant, la platine disque est quand même celui qui tient le mieux, on dirait. Les disques, les 78 tours tiennent bien quand même. Il faut reconnaître que 58 ans après, on a quand même des qualités d'enregistrement qui sont vraiment très très correctes.
J'espère que ce sera la même chose pour les supports numériques que l'on a actuellement.
Ouais. Je ne sais pas, c'est pas grave.
On verra ça dans 50 ans. Ouais. Alors, comme ingénieur du son, nous avons vu un petit peu très rapidement finalement ta vie professionnelle. Mais je sais que tu l'as dit d'ailleurs dans ton interview, tu t'intéresses énormément à la musique et tu as un groupe.
Oui, j'ai mon groupe depuis quelques années maintenant. Tout simplement parce qu'au départ, donc en tant qu'ingé son, bon, je faisais que de la technique et puis bon, du mixage. Je me suis mise à jouer un petit peu avec des collègues ingé son aussi. Et puis je me suis dit, tiens, ça serait pas mal finalement de faire un peu mon truc à moi, en fait, faire ma musique. Donc j'ai commencé au studio Orchidée, vu que c'était un studio d'arrangement. Donc j'avais toutes les machines à disposition, tous les instruments. Donc j'ai commencé comme ça et puis je me suis dit, tiens, on va peut-être essayer de faire un groupe, de faire mon propre groupe. Mais au départ, je n'étais pas convaincue. Je me suis dit, oula, ça doit être dur, ça va être galère et tout. Puis finalement, en discutant avec pas mal de musiciens, ils m'ont dit, mais non, mais vas-y, t'as qu'à t'y mettre. Et puis c'est tout, ça se passe tout seul. Après, ça passe, ça ne marche pas. C'est encore autre chose. Et donc, j'ai créé Manchester. Donc, un groupe de rock anglais, comme son nom l'indique. Et voilà, donc là, on a sorti une première démo. Ensuite, comme j'ai eu mon premier bébé, donc on a dû s'arrêter un petit peu. Et puis là, on reprend dans les enregistrements et on va essayer de prévoir quelques scènes pour l'hiver prochain, à partir de l'hiver prochain.
Waouh.
Voilà, ça fait des projets.
Est-ce que être ingénieur du son te fait voir les choses différemment quand tu commences à enregistrer un disque?
Oui. C'est-à-dire que, par exemple, pour mon groupe, je sais exactement ce que je veux et je sais ce que je vais entendre à la fin. Donc, je laisse très très peu de marge et je laisse en gros personne toucher à mon bébé. C'est-à-dire que j'ai essayé d'ailleurs de donner un morceau qu'on avait enregistré à un ami qui est ingénieur du son. J'avais demandé de le mixer. Enfin, c'est lui qui m'avait dit, tiens, ça, j'aimerais bien mixer Manchester. Donc, j'ai dit, tiens, il n'y a pas de problème. Et en plus, c'était un morceau un peu bizarre et qui pouvait sonner très pop nunuche. Ou alors très rock'n'roll, suivant la façon dont on allait le mixer. Et puis j'ai vu que je pouvais pas, en fait. Donc au départ, déjà, dès le départ, j'ai donné 10 000 indications. J'étais super chiante, en fait. Et je me suis dit, je vais le saouler, ça va le gonfler direct. Et puis finalement, donc il a fait une première version. Et ce que je craignais, en fait, c'était vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on retombait dans un côté pop, alors que nous, on voulait vraiment du gros rock'n'roll. Donc je l'ai remixé, j'ai du mal après à lâcher mon bébé comme ça, j'arrive pas, je sais tellement ce que je veux par rapport à mon groupe. On est deux, on est avec Yannick Ledu, donc lui est guitariste, ça fait 20 ans qu'il joue et il a vraiment une idée très précise du rock et de ce qu'on veut faire, donc on est vraiment sur la même longueur d'onde et donc on sait... À l'enregistrement, donc on enregistre, on a un petit PC portable, on est en studio de répète, comme ça on peut jouer fort. Mm-hmm. Et puis donc on place nos micros et on enregistre vraiment comme ça en live. Il y a vraiment pas beaucoup de re-re, c'est on fait une prise et puis on enchaîne. Donc on sait quand on enregistre. Je sais la façon dont je vais le mixer, je sais la façon dont je vais le masteriser, je sais le son que j'aurai plus tard, puisque ça fait des années qu'on travaille ensemble et qu'on a mis au point ce son-là. Donc du coup, comme je vous dis, je laisse peu de place aux autres ingé-sons ou aux autres techniciens qui vont vouloir me dire tiens, je peux mixer ça ou tu devrais faire comme ça. Non, enfin, je suis vraiment têtue, bordée, mais je sais exactement ce que je veux, je sais exactement le son que je veux pour ce groupe-là en tout cas. Après, pour le reste, je peux faire d'autres choses, mais c'est vrai que pour Manchester, on a vraiment un son à part, d'ailleurs, bien à part, mais c'est ce qui nous correspond en tout cas. Pour ce projet-là.
Vous avez présenté votre prototype, dirais-je, à des maisons de disques. Qu'est-ce qu'elles en ont pensé, tout en sachant combien c'est difficile actuellement au niveau du son d'être en accord avec les maisons de disques.
Mais on a eu la réponse. On a été assez surpris, en fait. On n'a pas fait beaucoup d'envois parce que, comme je te disais, j'étais en train j'avais ma petite fille qui allait arriver, donc après, j'avais quand même pas mal de temps à la maison. Donc, je suis rentrée de maternité et j'entends sur mon message un directeur artistique de chez Sony BMG. Donc au départ, je rentre de maternité, je me dis oula, c'est une blague, c'est un copain qui m'a appelé et faire des. Et donc, je rappelle, j'arrive à le voir et puis il me dit oui, on est vraiment intéressé par ce que vous faites, la pochette nous a plu, le son, l'énergie, ça nous a plu, sauf que vous chantez pas en français. Donc j'ai dit bon ben ok. D'accord, donc j'étais toute fière parce que c'est vrai que c'était pour nous, c'était la première fois qu'on avait une grosse maison de disques qui nous appelle pour nous dire c'est bien ce que vous faites, et forcément après on revient sur terre quand on nous dit ben non, vous comprenez, ça correspond pas vraiment au marché actuel et puis vous chantez pas en français. Donc nous, comme je te disais depuis le départ, c'est on est têtu, on est borné, il y a des choses sur lesquelles on on lâchera pas. Et puis voilà, quoi, Manchester, c'est un son et c'est en anglais.
Point. Vous avez raison, parce que en fait, on s'aperçoit là cette année, depuis un an et demi, en fait tout récent, qu'il y a des groupes français qui commencent à marcher sérieusement à l'étranger, tout simplement parce qu'ils chantent en anglais. Alors il y a le groupe Cocoon, il y a quelques groupes comme ça qui arrivent à passer les frontières parce qu'ils ont pris cette façon de voir les choses en disant bon, si on chante en français, on va rester dans la frontière. On va rester dans notre hexagone. Le marché du disque étant en France, étant tel que c'est plus la peine de vouloir faire une carrière en France, on a encore des chances à l'étranger, on tente. Et ils ont tenté, effectivement, et ça marche.
Ah oui, tout à fait. Et puis nous, c'était... Enfin, depuis que je suis petite, j'écoute des chansons en anglais, j'écoute aussi des trucs en français, mais ça a toujours été ce que j'aime, en fait, les groupes anglais, tout ça, j'ai toujours adoré ça. Donc je vois pas pourquoi j'aurais fait autre chose. C'est pas parce que je suis en France et que je suis française que je suis obligée de chanter en français. Si j'aime autre chose, je peux faire autre chose. J'ai pas d'obligation. Après, bon, bah, s'ils veulent pas, ils veulent pas, hein, c'est pas grave. Hein. Mais c'est vrai que bon, après, c'est... Chacun fait comme il veut. Mais nous, on ne voulait pas avoir de contraintes comme ça, se dire si on veut marcher, si on veut faire du commercial, alors il faut qu'on chante en français. Non, quoi. C'est hors de question. C'est hors de question. Et d'ailleurs, récemment, on avait eu un appel de Fred Chichan. On avait déposé le CD chez eux. Et donc, ils nous avaient contactés en disant qu'ils voulaient absolument nous voir et que ça l'intéressait, en fait. Et puis, malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Et donc, on n'a pas pu travailler ensemble. Mais c'est vrai que c'est pareil, on était comme des gamins. On avait Fred Chichan au bout du fil, qui était tout content parce que ce qu'il avait écouté, ça lui plaisait et qui voulait nous voir. Et nous, on était comme des fous, comme des fous.
Oh, ça se comprend très bien.
Ah oui, on était vraiment...
Ça se comprend très bien. Parce que c'est vrai qu'actuellement, au niveau de la chanson française, bon, on est un petit peu au ras des pâquerettes. Faut quand même pas... On a beau entendre et lire, il y a dans les médias que c'est magnifique le renouveau de la chanson française. Moi, je suis un peu sceptique. D'autant plus quand on voit, quand on se balade au moment de la fête de la musique, on s'aperçoit que les trois quarts des groupes, des jeunes groupes français, des gamins qui ont 16, 17, 18, 20, eh ben ils chantent tous en anglais et ils chantent tous du rock anglais ou américain. Mais c'est toujours dans l'anglo-saxon et c'est là où ils arrivent à se retrouver complètement.
Ah oui, mais je pense que vraiment... puis c'est par rapport à nos goûts aussi, on n'est pas obligé. Je veux dire, il y a des quotas en France, c'est une honte. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que c'est une honte qu'on passe des choses que les gens aiment, et pas forcément des trucs commerciaux tout le temps, où il n'y a rien, où on s'en fout. C'est à partir du moment... Moi, je vais vous dire, je viens d'un village dans le sud où il y a 800 habitants. Les seules radios que j'avais, c'était Fun Radio, Radio France Hérault et Radio Nostalgie. Donc, pour découvrir le rock, il y avait mieux. Mais bon, heureusement, mon père écoutait des trucs un peu rock. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses différentes et que c'était vraiment super. Et c'est ce qui m'a permis vraiment d'aller chercher, d'aller voir des nouveautés, d'aller trouver des trucs, des nouveautés pour moi en tout cas, parce que je ne connaissais pas tous ces groupes-là. Et je ne comprends pas que ça soit aussi fermé. C'est pas,
mais tu parles de ton petit village, mais on s'aperçoit aussi que beaucoup de petits villages français, les jeunes, qu'est-ce qu'ils écoutent ? Ils écoutent du hard rock ?
Ouais, ça dépend des régions. Ça dépend des régions. C'est vrai que nous, par exemple, dans le sud, on a le ska. Le ska qui marche très très bien. C'est du rock, ska, punk. Ça part vraiment un peu dans tous les sens. Il y a vraiment des groupes qu'on retrouve, des groupes assez revendicateurs, d'ailleurs, occitans, qu'on retrouve dans les Farias, par exemple, à Béziers. Ils ont vraiment leur public. Ils ont vraiment... Et ça cartonne et c'est super bien. Mais par contre, c'est totalement méconnu. À part dans la région. En Bretagne, on a le rock, il y a quand même pas mal de groupes aussi qui viennent de là-bas. C'est vrai que, heureusement qu'il y a ça, mais c'est vrai que bon, à partir du moment où vous allumez la radio, vous écoutez la télé, il n'y a absolument rien de tout ça.
C'est très restrictif.
Voilà.
Au lieu d'élargir la connaissance culturelle aux gens, c'est devenu excessivement restrictif. Mais le problème qu'ils ont également, finalement, ils le payent puisqu'ils perdent énormément d'auditeurs. Ouais. Là, on voit, ils sont en train de plonger au niveau des radios. Ils sont en train de plonger parce que les gens, je crois, en ont plus qu'assez d'écouter ces mêmes types, ces rotations qui sont très, très très fréquent des mêmes artistes. Et
heureusement qu'Internet est là.
Oui, exactement.
Heureusement qu'il y a Internet. C'est vraiment, là aussi, c'est un gros débat, je pense, mais c'est vrai que heureusement qu'on a Internet et qu'on peut écouter d'autres choses, quoi, parce que sinon on se contenterait de ce qu'on a à la télé.
Oui, oui.
On n'écouterait rien.
Bien, quel est le programme à part l'arrivée d'un nouveau
À part l'arrivée du nouveau bébé, le programme, donc, ça va être vraiment enregistré pour Manchester. Et puis, moi, j'ai d'autres projets à côté qui me tiennent à cœur, mais on va voir dans la réalisation ce qui est possible. J'aimerais vraiment faire un album en tant que réalisatrice, on va dire, plutôt directrice artistique. Prendre un chanteur ou plusieurs chanteurs et puis vraiment faire des morceaux qui ne seront pas forcément rock'n'roll, mais faire des morceaux peut-être plus électro-rock, pop, acoustique, avec des chanteurs différents. Donc là, je suis en train de regarder un peu autour de moi avec qui je pourrais travailler sur ces morceaux-là. Donc voilà, donc il y a ça en plus. Mais sinon, Manchester, on continue, on enregistre et puis, à partir de décembre, je pense qu'on reprendra les répètes en groupe correctement et puis pour pouvoir redémarrer les concerts.
Très bien, je vois que cela va être mouvementé, oui, les mois qui vont
toujours
arriver.
Toujours, sinon je m'ennuie.
Merci beaucoup Leslie d'être venue,
merci à vous.
Cela m'a fait très plaisir. J'espère que tu viendras nous voir à la sortie de tes nouveaux albums,
pour nous
présenter tout ça, de tes nouvelles expériences en tant qu'ingénieur du son.
Voilà.
Vu ton parcours, c'est passionnant.
Voilà, mais je veux voir ce que je peux trouver d'autre.
Merci.
Merci à vous.
Ici, Autre Radio, Autre Culture. À bientôt. Autre Radio, Autre Culture.